France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Anouk Miliot, Barthélémy Gaillard, Quentin Péchard et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Le Cuivre, à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. Nous posons ce matin la première pierre de notre série consacrée à quelques grands travaux dans le monde avant les villes futuristes du Golfe, avant une rivière artificielle en Libye ou les gigantesques barrages chinois. Nous parlons ce matin de l'Éthiopie où le grand barrage dit de la Renaissance a été inauguré le 9 septembre. Éthiopie, un barrage pour cimenter la nation.
Ce barrage va faire de l'Éthiopie un pays plus fort à très court terme. Ici, c'est un meilleur futur pour le pays que nous préparons.
Plus de 50% de la population n'a pas accès à l'électricité. Donc cette énergie va améliorer la couverture du pays. Cela va également attirer les investissements et aura un impact positif sur l'économie.
Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour soutenir l'achèvement du barrage de la Renaissance, construit dans l'unité. C'est un jour dont je suis fière en tant qu'Éthiopienne.
Avant d'être retenue dans ce grand barrage de la Renaissance, le Nil bleu prend sa source sur les hauts plateaux abyssins, au lac Tana, aujourd'hui envahi par les vicieuses jacinthes d'eau, mais d'abord réserve de milliers d'oiseaux et d'hippopotames faussement pataux. Le fleuve serpente ensuite sur une quarantaine de kilomètres, chute avec fracas. À Tississat, et fort de cet élan et de tous les affluents qui le rejoignent dans sa course, il arrive à la frontière soudanaise. C'est donc là, en amont de la rencontre du Nil bleu avec le Nil blanc pour former le Nil tout court, que le 9 septembre dernier a été inauguré ce grand barrage construit par l'Éthiopie pendant 14 années. Décidé au début des années 90 par le Premier ministre de l'époque, Meles Zenawi, il doit apporter l'électricité aux plus de 56 millions d'Éthiopiens qui en sont toujours dépourvus et sert aujourd'hui d'étendard à Abiy Ahmed, l'homme qui, après avoir fait la guerre il y a 3 ans aux habitants du Tigray dans le nord du pays, mais aussi en région Oromia et Amara, entend aujourd'hui par cet ouvrage d'art cimenter la nation. Bonjour Mehdi Lebzaé.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences sociales du politique. Vous êtes sociologue et spécialiste politique, spécialiste de l'Éthiopie. Mehdi Lebzaé, on est plus d'un mois après la mise en œuvre du barrage, en tout cas son inauguration. Est-ce qu'il est déjà rempli des 64 milliards de mètres cubes d'eau qu'il est censé avoir la capacité de retenir? On n'est pas ingénieur ni vous ni moi, mais on a un peu des images, et surtout en général quand il y a ce genre de grand projet, on nous dit dans tant de jours la capacité sera atteinte. On en est où?
Effectivement, en principe, il est rempli de ces 74 milliards de mètres cubes.
74 ou 64?
74,
d'accord,
il me semble.
D'accord, j'avais lu 64.
Pas tout à fait sûr, n'étant effectivement pas ingénieur.
On n'est pas à 10 milliards près, finalement.
Mais en tout cas, c'est un lac qui est en volume plus important encore que le lac Tana. Et puis, le barrage a commencé à être rempli à plusieurs tours successifs depuis 2020. Et donc, à chaque saison des pluies, il y avait une nouvelle phase de remplissage du barrage. Quand bien même l'ouvrage n'était pas complètement terminé, on commençait à le remplir. Et il a été donc inauguré le 9 septembre, mais il avait déjà commencé à produire de l'électricité il y a quelques années.
Il y avait déjà 2 turbines d'ailleurs en service depuis 2022, je crois, 2 sur 13. Cette capacité alors, de 64 milliards de mètres cubes ou 74, quoi qu'il en soit, c'est 64 ou 74 milliards de tonnes qui pèse soudain dans cette région composée de roches volcaniques. Il faut être sûr de son coup, d'autant que la faille est-africaine ne passe pas loin. Un peu plus à l'est, tout a été minutieusement étudié.
Alors, a priori, oui, il n'y a aucun problème du point de vue de la finition de l'ouvrage et de sa fiabilité. C'est une entreprise italienne, Salini, qui a été contractée pour faire le gros œuvre du barrage, avec des ingénieurs éthiopiens et en partenariat avec METEC, le conglomérat militaro-industriel éthiopien. Il faut savoir que, en fait, ce barrage, c'est le résultat d'une politique de multiplication de tels ouvrages, notamment dans le sud du pays, sur la rivière Omo, et que donc à la fois cette entreprise Salini et le gouvernement éthiopien sont arrivés au début de la construction en avril 2011 avec une expérience accumulée de tous ces autres ouvrages qui a permis la construction du barrage pendant ces 14 dernières années.
Ce qui n'était pas gagné pour la METEC au départ, cette Metal and Engineering Corporation, la plus grosse entreprise industrielle éthiopienne, dont les détracteurs disent qu'elle a eu le contrat parce qu'elle était dirigée par un homme originaire du Tigré à l'époque où le Premier ministre en était également originaire, alors que cette entreprise n'avait jusqu'à présent construit que des routes et des maisons. Donc elle a acquis une certaine expertise au fil des ans. Ce grand barrage de la Renaissance doit produire à terme plus de 5000 mégawatts, soit plus du double de ce que le pays produit jusque-là. La télévision publique, le 9 septembre dernier, a retransmis en direct les festivités et le discours du Premier ministre Abiy Ahmed.
À tous les Éthiopiens du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, ainsi qu'à tous les amis de l'Éthiopie vivant à l'étranger, je tiens à vous féliciter tous d'avoir la chance d'assister à cette journée exceptionnelle que Dieu nous a offerte. Honorables Éthiopiens, nous avons entendu l'histoire, nous avons été témoins de l'histoire et nous avons appris de l'histoire. Aujourd'hui, puisque nous sommes devenus la génération choisie par Dieu, nous avons construit l'histoire et nous sommes là, debout, pour parler. Le grand barrage de la Renaissance n'est pas seulement pour l'Éthiopie, mais pour tous les Noirs. C'est un exploit qui restera dans l'histoire pour l'éternité.
Inauguration du barrage donc le 9 septembre avec feux d'artifice géants, essaim de drones et fanfares. Mehdi Labzaï sur ce Nil bleu qu'on appelle rivière abbaye d'ailleurs en Éthiopie. Une rivière paraît-il souvent moquée dans les chansons populaires, qualifiée d'ingrate et manquant d'esprit patriotique. C'est dans un texte de Elias Abi Chakra, correspondant éthiopien du Point à Addis Abeba que je l'ai lu, notamment parce qu'on dit que cette rivière n'a pas d'endroit où se reposer, qu'elle passe son temps à charrier des troncs d'arbres morts. Il lui est reproché aussi de verdir l'Égypte. On parlera tout à l'heure des problèmes que pose à l'Égypte ce barrage-là. Vous, Mehdi Labzaï, vous allez très souvent sur place. Vous connaissez très bien d'ailleurs la région où est construit ce barrage, puisque vous y avez passé 3 ans pour votre thèse. Alors vous nous raconterez à la fois ce que les Éthiopiens attendent de ce barrage et ce qu'il peut changer dans leur quotidien ou pas. Mais d'abord, de quelle histoire plus longue est-il l'aboutissement ?
Alors, cette histoire, on peut la faire remonter aux années 60 avec les premiers projets de barrage sur cette rivière Abaï, donc la grande rivière qui...
Abaï, pardon,
qui
pas Abaï.
Effectivement,
même si l'Éthiopie est un pays chrétien.
Qui peut être, elle peut être moquée, cette rivière, mais elle est surtout vénérée parce que elle représente la puissance et puis elle montre aussi toutes les précipitations qui frappent l'Éthiopie en saison des pluies, qui permettent les cultures dans des sociétés paysannes. Donc, là-bas est vraiment une rivière très importante dans la culture éthiopienne, et l'idée de faire un barrage sur cette rivière était déjà à la fin des années 60, à la fin de la période de l'Empire sous Haile Selassie, une idée qui circulait au sein des élites modernistes éthiopiennes. À l'époque, il y avait des problèmes d'ingénierie, des problèmes d'accès au financement qui font que le projet n'a pas eu lieu. C'est resté de manière un petit peu dormante une idée, une possibilité dans la palette des possibilités pour les élites éthiopiennes, mais elle n'est vraiment ressortie de manière possible que dans les années 2000.
Alors, juste avant, pardon, parce que vous parliez d'Haïlé Sélassié, donc dernier empereur d'Éthiopie qui a été renversé en 74, lui, jusqu'où était-il allé dans cette idée ? Est-ce qu'elle était déjà à l'état de projet ? Est-ce qu'il avait fait... Vous dites qu'il y avait des problèmes d'ingénierie à l'époque, mais il avait quand même essayé quelque chose ?
Non, il n'y avait pas d'identification du site. Il y a eu des débats dernièrement en Éthiopie là-dessus, parce que Abiy Ahmed, le nouveau Premier ministre, s'est approprié le projet du barrage en disant par exemple que quand il est arrivé aux affaires en 2018, il y avait juste quelques cabanons sur les lieux des travaux, alors qu'il y avait déjà des communiqués officiels en 2016, 2 ans avant, qui disaient que le barrage était construit à 65%, enfin terminé à 65%. Donc il y a eu des débats là-dessus en Éthiopie, sur l'historicité disons de ce projet. Je pense qu'il est important de souligner le rôle de l'ancien Premier ministre Meles Zenawi dans ce projet. Le directeur de Salini lors de l'inauguration du barrage.
L'entreprise italienne, pardon, Salini.
Pardon, oui, qui a d'ailleurs été renommée récemment, qui s'appelle WeBuild. Et donc, son directeur a rappelé un débat ou une discussion qu'il a vue avec Melles Zenawi, où Melles Zenawi lui expliquait le rôle du barrage dans ce grand projet politico-économique d'une Éthiopie avec forte croissance. Et ce projet, c'est le cœur de ce qu'on appelle l'état développemental éthiopien.
Auparavant, notre quotidien reposait sur les lampes à pétrole et le charbon de bois, ce qui posait d'importants problèmes. Nous transportions du bois au marché et le bio pour acheter du pétrole et du pain pour nos enfants. Mais avec l'achèvement du barrage, toute notre communauté est désormais heureuse.
On nous disait que nous n'avions pas le droit de le construire. Mais nous l'avons fait. Nous l'avons construit et inauguré. C'est une grande réussite pour nous.
Ce qu'attend la population éthiopienne, Medilabzaï de ce barrage, c'est ce que disait Melles Zenawi à l'époque, Premier ministre, donc après la chute de la dictature militaire maoïste de Mengistu Haïlé Mariam, c'est un développement du pays, c'est l'accès pour tous, à tous, de l'électricité.
Exactement, c'était l'électrification des campagnes et une électricité qui devait permettre l'industrialisation du pays. Et ça, c'était très important, c'était vraiment le cœur de la pensée de Melles Zenawi, notamment l'idée de fonctionner sur le mode de la grille. On va faire des grilles électriques qui vont se répandre dans les campagnes. Et c'est là qu'on voit la différence avec le régime actuel, c'est que cette idée d'état développemental où l'État est le premier investisseur dans l'économie et où on emmène parfois à marche forcée, hein, parfois de manière autoritaire, la population vers son développement, c'est cette idée-là sur laquelle le régime actuel est en train de revenir.
Quelle était l'idée de Melles Zenawi à l'époque, donc ancien guérillero marxiste, originaire du Tigré, qui devient Premier ministre en 95? Lui, comment pense-t-il ce barrage, au service de quel projet ou de quelle vision de l'Éthiopie, de façon plus politique? On disait qu'à l'époque le projet était très secret, qu'on l'appelait projet X pour que les voisins n'en entendent pas vraiment parler et ne soient pas inquiets. Néanmoins, il le disait quand même assez publiquement, qu'il pensait qu'il fallait faire un barrage pour le développement de l'Éthiopie et surtout pour son unité.
Oui, parce que c'était un grand projet mobilisateur. On a entendu dans l'extrait cette dame qui montrait ce qu'elle en attendait. C'est quelque chose qui a une vraie légitimité au sein de la population éthiopienne. Lors de l'inauguration, y compris des groupes d'opposition armée se sont félicités de l'inauguration de ce barrage. Ce sont les Éthiopiens qui ont payé ces 5 milliards de dollars qu'ont coûté le barrage. Ça a été financé à plus de 90% par des obligations d'État achetées parfois de force par les Éthiopiens. Les fonctionnaires, plusieurs années de suite, se sont vus prélever un mois de salaire pour le financement du barrage.
Un mois d'un coup ou c'était par petits morceaux
sur leur salaire ? C'était réparti à l'année, mais au final, c'était quand même un mois de salaire qui était enlevé dans un contexte où de croissance forte, où l'inflation était également soutenue. Donc ça a été une perte de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires notamment. Mais il y avait beaucoup de campagnes de levée de fonds pour ce barrage. Et aujourd'hui, quand on entend le Premier ministre dire que les Éthiopiens sont un peuple choisi de Dieu et que c'est une intervention divine, telle qu'il l'a dit tout début septembre dans une interview, une intervention divine qui aurait permis ce barrage, eh bien on voit aussi la modification du discours public, parce que le barrage à la base, c'est travailler tous ensemble de manière, en coopération de tous les peuples éthiopiens, contre les volontés des États qui voudraient nous imposer le fait de ne pas utiliser nos ressources, et donc travailler tous, se retrousser les manches, hein, avec un fond encore de vocabulaire marxiste, pour le développement. C'était ça le barrage.
Lui, il a vraiment fait, Abiy Ahmed, le Premier ministre actuel, il a fait de ce barrage l'œuvre du créateur. Il fait passer cette entreprise de grands travaux pour une intervention divine, parce qu'il pense que cela va le légitimer ou parce qu'il en est vraiment convaincu lui-même?
Alors, j'ignore ce qui se passe dans la tête d'Abiy Ahmed. En tout cas, ce qu'on peut vraiment voir, c'est que il y a une reformulation religieuse des discours politiques de la part d'Abiy Ahmed, et qui est très, très, très marquée par rapport justement à ses prédécesseurs, et notamment à Melles Zenawi. Les discours d'Abiy Ahmed aujourd'hui finissent par des bénédictions à l'encontre de l'Éthiopie, que l'Éthiopie et son peuple soient bénis. Du temps de Melles, ça pouvait finir davantage par gloire aux martyrs de la lutte. On voit des modifications comme ça qui reflètent quelque chose. Abiy Ahmed, on en parle souvent, a déclaré devant le Parlement que sa propre mère avait prophétisé qu'il serait le 7e roi d'Éthiopie. Donc toute cette formulation du discours politique en termes religieux, et avoir un Premier ministre qui parle davantage comme un pasteur, c'est quelque chose de nouveau.
Est-ce qu'il n'y a pas toujours eu, le pouvoir éthiopien n'a pas toujours eu sa part de sacré en Éthiopie, le palais d'Haïlé Sénassié par exemple, il est toujours maintenu dans l'état exact où il était quand le Négus Rouge a quitté les lieux pour aller mourir à l'hôpital. Il y a quelque chose de, oui, une forme de sanctuarisation et de sacré dans le pouvoir en Éthiopie que Abiy Ahmed reprend quand même à son compte ici avec le barrage.
C'est ce qu'il essaye de mettre en avant avec aussi d'autres grands projets, mais du point de vue des palais, il a quand même remodelé le palais de Harat Kilo au centre d'Addis Ababa, qui était une petite forêt fermée au public. Il l'a remodelé en l'ouvrant, en y installant un zoo ouvert au public, et il a, disons, aussi assez peu de respect pour l'histoire de ce point de vue-là, puisque il a vraiment modifié considérablement, y compris l'architecture, d'un endroit qui était, comme vous l'avez dit, très chargé d'histoire, parce que c'était le palais de Ménélique, puis de Haïlé Sélassié.
Alors, l'objectif à l'époque donc de Meles Zenawi, encore une fois dans les années 90, quand vraiment ce projet commence à prendre forme, c'est, vous l'avez dit, le développement de l'Éthiopie, l'unité entre tous les peuples d'Éthiopie, une forme de projet national pour créer une unité dans un pays déjà soumis à des forces centrifuges à l'époque, avec différentes communautés qui commençaient à l'époque à connaître des tensions, apporter de l'énergie au pays, mais aussi donner du travail aux ingénieurs éthiopiens. Cette entreprise dont vous parliez tout à l'heure, la METEC par exemple, il y a quelque chose dans cet ordre-là, on va donner du travail aux Éthiopiens et du travail très qualifié d'ingénierie.
Oui, on va donner du travail, on va monter en compétences. Et c'est pour ça qu'il est important de voir ce barrage comme le résultat d'un processus, d'une multiplication de ce type d'ouvrages. Et c'est ainsi qu'il y a eu une génération d'ingénieurs éthiopiens formés notamment sur les projets de la rivière Gibé et Omo dans le sud du pays, avec la multiplication de ces travaux, qui ont pu monter en compétences, connaître tout ce qu'il faut pour construire un barrage, et arriver à un projet aussi important que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. C'est 2 km de long et puis 170 mètres de haut. Tout ça, c'est le résultat d'une politique publique qui s'est échelonnée sur plusieurs décennies et d'une montée en compétences de la part des ingénieurs éthiopiens, notamment au sein de ce conglomérat militaro-industriel qui est METEC.
Mais sans créer nécessairement des frustrations, des colères, ces fonctionnaires qui ont été prélevés pendant très longtemps de l'équivalent d'un mois de salaire sur une année, il y a ceux qui achetaient en leur nom des obligations d'État, mais d'autres qui n'avaient pas le choix, ça n'a pas créé davantage de frustrations que ça.
Pas du point de vue des fonctionnaires, c'est-à-dire que les gens, bien sûr, n'étaient pas très contents de voir leur salaire de facto réduit pour la construction du barrage. Mais ce que les gens se disaient beaucoup, c'est quand même pour le bien, c'est quand même pour le développement. Et je pense que c'est un projet véritablement légitime, assez largement en Éthiopie. Maintenant, les colères que ça a pu créer, c'est que l'Éthiopie est aussi, depuis 2014, entrée dans une crise politique qui s'est muée en guerre civile à partir de 2018, avec une intensité particulièrement forte entre 2020 et 2022 au Tigray, dans la région la plus septentrionale du pays. La colère que ça...
600 000 morts.
600 000 morts,
exactement. On estime aujourd'hui.
La colère a été formulée en ce que METEC est devenu, vous l'avez dit tout à l'heure, le symbole de l'accaparement de l'État par ce qu'on appelait une élite tigréenne. Ce qui était très largement fantasmé, quand bien même le général qui était à la tête de METEC était membre du TPLF et donc du parti au pouvoir au Tigray, qui était le centre aussi de la coalition au pouvoir en Éthiopie, quand bien même il était du TPLF et tigréen, METEC a eu le contrat pour le barrage parce que c'était le fleuron militaro-industriel de l'État développemental, et en aucun cas du fait de considérations ethno-nationales.
C'est vrai qu'il y avait plein de fantasmes qui circulaient à l'époque. Je disais le fait qu'on dise, mais cette entreprise n'a pas les capacités de construire un barrage parce que jusqu'à présent elle fait des routes et des habitations. Le ciment provient d'une cimenterie du Tigray, il n'y a pas eu d'appel d'offres, donc on avait l'impression, oui, que ça contribuait à remuer toutes ces tensions qui existent déjà entre différentes communautés. On parle vraiment d'ailleurs en Éthiopie d'ethnie, puisqu'on parle d'un découpage ethno-géographique.
Oui, alors en effet, c'est sur... comment dire ? Je pense que oui, il y a eu de la grande corruption en Éthiopie, y compris des détournements très certainement qui frappaient METEC également. Mais l'idée de dire ils ont donné les travaux publics aux Tigréens et fausse, ils ont donné les travaux publics aux fleurons de l'État développemental. L'État développemental, c'est quoi? C'est cette politique publique qui fait de l'État le principal investisseur dans l'économie, de manière... pas autarcique, mais en tout cas national. On ne va pas faire appel à des ingénieurs étrangers, ou du moins le moins possible, et on va monter en compétences en interne, en Éthiopie. Et c'est donc plutôt l'État développemental, la politique, une espèce de très fort keynésianisme, vraiment frotté de marxisme, qui était remise en cause à travers cette dénonciation des élites tigréennes et de la grande corruption. Par ailleurs, la grande corruption n'a pas stoppé avec l'arrivée d'Abiy Ahmed au pouvoir. On a eu une succession de scandales sur d'autres grands projets presque aussi chers que le barrage.
Est-ce qu'au moment de l'inauguration en septembre, Abiy Ahmed s'est adressé à ces fonctionnaires qui ont financé le barrage, cette population éthiopienne sans qui il n'aurait pas pu voir le jour? Est-ce qu'il a salué les sacrifices populaires, où il est resté dans ce registre teinté de religion?
Il l'a fait, mais moins que justement l'autosatisfaction d'être un peuple élu, et aussi un discours hégémonique, quand on a entendu dans l'extrait la fierté du peuple noir qui est ce barrage. Il est allé beaucoup plus largement que la population éthiopienne dans ses remerciements. Hein, il est allé beaucoup plus largement que la population éthiopienne qui, elle, a payé pour ce barrage.
Qu'est-ce qu'il veut dire d'ailleurs quand il parle de la fierté du peuple noir ?
Ça fait partie de cette politique de rayonnement, de se penser comme un hégémon, non seulement à l'échelle régionale dans la sous-région en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient, mais plus largement à l'échelle planétaire. Et plusieurs déclarations d'Abiy Ahmed ces dernières années vont dans ce sens.
Est-ce que le barrage va au moins servir l'objectif initial, c'est-à-dire électrifier le pays ? D'abord, quelle part des Éthiopiens ont accès à l'électricité aujourd'hui ? Et est-ce que le réseau électrique a été mis à niveau, si j'ose dire, ces dernières années, pour être prêt quand le barrage sera mis en service? Maintenant, il l'est depuis un mois. Est-ce que le réseau suit?
Alors, au niveau du taux d'électrification, il a légèrement reculé ces dernières années. Il s'est stabilisé et a légèrement reculé ces dernières années, d'une part du fait de la croissance démographique, d'autre part par le fait que quand on mène la guerre dans plusieurs régions du pays, c'est pas un environnement propice à construire des lignes électriques. Le réseau est pour partie mis à niveau. Il permet à l'heure actuelle d'acheminer l'énergie du barrage vers Addis Ababa et vers d'autres sites industriels. Et il a été mis à niveau notamment avec des prêts assez importants, des prêts publics ou parapublics de la Chine, pour près de 3 milliards de dollars. Donc le barrage, l'ouvrage lui-même, a vraiment été financé par les Éthiopiens. La mise à niveau du réseau et l'extension du réseau, notamment vers différents sites industriels, a été notamment financée par la Chine.
Djibouti a apporté 1 million. Est-ce qu'on sait si c'est pour le barrage ou pour le réseau? En tout cas, la part d'apport extérieur, parce qu'en effet, ce barrage a été autofinancé et l'Éthiopie ne cesse de le rappeler. En revanche, est-ce qu'il y a quand même eu un peu de capitaux étrangers?
Vraiment, sur le barrage, c'est plus de 90% éthiopien. Djibouti, effectivement, a également contribué, puisque Djibouti va être ensuite récipiendaire de l'électricité qui devrait être exportée. Djibouti, le Soudan et le Kenya.
L'électricité va être exportée, c'est d'ailleurs ce que rappelle l'entreprise éthiopienne Electric Power, qui parle de ce nouveau potentiel d'exportation grâce au barrage.
Nous avons déjà commencé des exportations pilotes d'électricité vers la Tanzanie et des ventes à grande échelle sont prévues dans le même exercice fiscal. Chez Ethiopian Electric Power, notre objectif est de devenir un pôle leader des énergies renouvelables et de connecter la région grâce à un approvisionnement électrique fiable. En reliant nos réseaux énergétiques à ceux de nos voisins, nous renforçons les liens régionaux. Cette interconnexion croissante soutient l'agenda 2063 de l'Union africaine et notre projet en est une composante clé.
Le barrage ne doit donc pas uniquement servir à couvrir les besoins de la population, l'intérêt d'exporter aussi. Et on va revenir également sur l'intérêt plus politique qu'y trouve Abiy Ahmed pour la place ou le rang de l'Éthiopie dans la région, mais sur l'électrification de l'Éthiopie en tant que telle. Mehdi Labzaï, il se trouve que vous avez travaillé récemment sur la façon dont vous avez vu apparaître en Éthiopie ce qu'on appelle soit des data centers, des centres de données, mais c'est pas ça, c'est plutôt des fermes de bitcoins. Dans quelle mesure aujourd'hui l'électricité produite en Éthiopie sert à alimenter ces fermes très énergivores qui produisent des crypto-monnaies?
Alors, effectivement, on était assez surpris il y a maintenant près de 3 ans quand on a entendu parler du Bitcoin en Éthiopie. Principalement parce que, comme on l'a dit, plus de la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité, en particulier en milieu rural. Les fermes de Bitcoin ont été attirées par l'Éthiopie pour plusieurs raisons. Il y a un des facteurs qui est qu'en 2021, la Chine a interdit le minage, donc la production de Bitcoin sur son territoire. Un autre facteur, c'est un cadre légal assez flou en Éthiopie, dont les mineurs pouvaient donc profiter. Et puis, le troisième facteur est peut-être principal, il est justement lié au barrage, et au barrage au pluriel. C'est-à-dire que l'énergie éthiopienne, l'électricité éthiopienne est considérée comme étant hydraulique, est considérée comme une énergie verte. Et donc, on avait ici, pour l'industrie des crypto-monnaies, une occasion de dire, regardez, on a une industrie verte, puisque l'énergie qu'on utilise est en Éthiopie très largement décarbonée. Il y avait aussi le fait que le climat est beaucoup plus clément pour des serveurs qui chauffent très fort, beaucoup plus clément à Addis Ababa en altitude que dans d'autres régions, enfin dans d'autres parties de cette sous-région. Voilà, il fait beaucoup plus frais que dans le Golfe.
Mais les crypto-monnaies, ce qu'on peut rappeler, c'est que ça non seulement ça ne crée rien, c'est déconnecté de toute valeur productive réelle, et ça consomme énormément d'énergie, à tel point que l'autorité de l'électricité éthiopienne s'est positionnée, c'était cet été en juillet, pour suspendre l'usage du Bitcoin. Le secteur, il consommait quoi? Un tiers, c'est ça, de l'électricité produite dans le pays?
Voilà, les premiers rapports tablaient sur 7% de consommation d'électricité par les fermes de Bitcoin, ce qui était déjà énorme. Hein. Cette année, l'autorité, enfin la corporation électrique éthiopienne, qui est parapublique, s'est rendu compte que c'était un tiers de l'électricité qui allait être consommée en 2025 par le minage. Et c'est à cette occasion qu'ils ont donc suspendu, pour le moment c'est suspendu, il n'y a plus de minage officiellement, il n'y a plus de minage de Bitcoin en Éthiopie, mais surtout le fait que l'électricité du barrage serve à produire un actif financier qui est absolument improductif, c'est là qu'on voit à quel point on est revenu en Éthiopie sur l'idée d'État développemental, et que c'est plus du tout à l'ordre du jour.
Que ça n'existe plus.
Que ça n'existe plus du tout. Puisque cette électricité qui devait servir aux campagnes et à l'industrialisation, finalement, elle sert à ce que Mel Zenawi aurait appelé des rentiers, chercheurs de rente, qui étaient vraiment la cible avant du régime, sous le régime de Mel Zenawi. Il s'agissait de faire la chasse aux rentiers, et donc d'empêcher une réussite économique qui ne soit pas productive pour tous et répartie. Le Bitcoin, c'est énormément de consommation d'énergie pour un actif financier difficilement tracé et qui en plus ne serait pas resté en Éthiopie. Un dernier élément assez intéressant dans cette idée de minage de Bitcoin à Addis Ababa, c'est que l'usage du Bitcoin pour les transactions en Éthiopie est toujours interdit, et l'était également avant juillet. C'est-à-dire que dans ces quelques années de production de Bitcoin en Éthiopie, la Banque nationale éthiopienne interdisait l'usage du Bitcoin dans le pays. Cependant, la branche des services de sécurité en charge de la surveillance des réseaux Internet et des télécommunications, l'INSA, demandait aux producteurs potentiels de Bitcoin de s'enregistrer auprès de ces services. Donc on avait une espèce de contradiction qui peut-être donne à voir des oppositions au sein du régime et qui crée un vide juridique dont les mineurs, les personnes investies dans cette industrie du Bitcoin pouvaient profiter.
Et est-ce qu'on peut imaginer que l'électricité produite par le grand barrage de la Renaissance va surtout servir à alimenter ces fermes de Bitcoins au détriment de l'électrification du pays, ou on peut faire les deux?
En tout cas, ce qui se profilait avant la suspension, c'était plutôt malheureusement le premier scénario. Depuis, on va voir, on n'a pas eu, donc ça fait quelques mois, il n'y a pas pour l'instant d'études sur dans quelle mesure le minage a perduré ou pas. Je doute qu'il ait perduré, puisque l'État éthiopien en général est tout à fait en mesure de faire advenir ce qu'il édicte. Donc voilà, on va voir à l'avenir, mais pour le moment, c'est suspendu.
Donc vous dites, Mehdi Labzaï, que la page de l'État qui travaille au développement du pays est tournée. C'est l'impression qu'on en a aujourd'hui en voyant l'usage qui va être fait de cette électricité produite par le Grand Barrage. Pourtant, il y a d'autres projets d'infrastructures en cours, que ce soit ce grand aéroport de Bishoftu prévu dans les 5 ans pour accueillir à terme 110 millions de passagers par an, contre 25 aujourd'hui pour l'aéroport de Bâle qui est au maximum de ses capacités. Alors sans du tout juger de l'utilité de cet aéroport, en tout cas, comment est-il présenté dans les discours, que ce soit cet aéroport ou les corridors urbains, les grands axes routiers, les grandes tours d'habitation et de bureaux à Addis Abeba, dans les discours, comment sont-ils présentés ces travaux-là?
L'aéroport, on en parle davantage à l'extérieur qu'en Éthiopie. C'est peut-être lié au fait que le transport aérien n'est pas le transport privilégié par la population éthiopienne. Même si, du fait de la multiplication des conflits dans les régions, il y a de plus en plus de la fréquentation des vols intérieurs a explosé. Pour les paysans qui vont se voir prendre leur terre par ce projet d'aéroport, c'est pas pour l'instant quelque chose de concret. On en a parlé dernièrement puisque l'administration américaine a déclaré qu'elle allait soutenir ce merveilleux projet. Les grands projets d'infrastructure qui font vraiment débat et dont on parle et qui ont un impact très important sur la vie des gens actuellement en Éthiopie et particulièrement dans la capitale Addis Ababa, c'est ce qu'on appelle les corridors. Donc ce sont c'est vraiment un remodelage complet de la ville avec des destructions de quartiers entiers. Surtout les quartiers populaires du centre de la capitale, dont la population a été déplacée vers les périphéries pour faire de grands immeubles de 15-20 étages et des voies de circulation très larges. On peut avoir des 2x4 voies dans l'essentiel du centre d'Addis Ababa. Et ces projets-là ont mené à des destructions parfois très brutales. On avait des gens qui pouvaient avoir des préavis de 15 jours pour partir d'un l'équivalent d'un logement social, et puis finalement, le surlendemain, avoir quelqu'un sur leur toit en train d'arracher la tôle ondulée, et l'expulsion était effective. On a vu aussi des formes de presque de raquettes, en tout cas c'est comme ça que les habitants d'Addis Abeba en parlent, pour financer le ravalement des façades. Il y a une peinture grise qui a été décidée en haut lieu pour repeindre les façades, et c'est à la population de payer cette peinture, ce qui fait énormément débat, puisque ce sont des sommes très importantes au regard des salaires qui sont demandés. Ça, plus la destruction de quartiers historiques, notamment Piassa, Kazanchis, dans le centre d'Addis Ababa, et donc déplacement des populations, et le fait que des personnes doivent maintenant parfois marcher plus d'une heure et demie le matin pour revenir au centre d'Addis pour travailler.
Parce qu'elles ont été relogées où, ces personnes expulsées?
Dans les grandes périphéries. Et une nouvelle fois, les relogements ont eu lieu dans des logements, par exemple, on allait être installé au quatrième étage d'un immeuble qui n'était pas encore raccordé à l'eau. Ou bien là où les toilettes étaient retournées, posées, elles n'étaient pas encore fixées. Donc c'était de nouveau des frais pour faire les travaux nécessaires pour vraiment s'installer dans ces logements. Et ça concerne des dizaines de milliers de personnes à Addis Ababa. On a un remodelage de la ville qui a notamment vocation à montrer autre chose que ce dont je parlais, c'est-à-dire des maisons au tôle ondulée. On veut montrer une image de modernité avec des façades grises et blanches et des lumières dites futuristes.
Et des petits cafés.
Et des cafés aux devantures vitrées. Qui rappelle les grandes chaînes de cafés américaines. Et c'est justifié par le Premier ministre notamment au nom de l'embellissement. Et ça revient beaucoup dans les discours. Ce qui aussi génère une forme de critique du point de vue de la population, puisque si embellir la ville, c'est nous mettre dehors, de quel embellissement est-on en train de parler?
Donc destruction d'une partie du tissu social versus enrichissement des promoteurs immobiliers privés. On construit une capitale pour riches, disait par exemple un habitant d'Addis Abeba, je crois au journal Le Monde récemment. Le barrage en tant que tel, combien de riverains a-t-il forcé à partir? Donc bien loin d'Addis Abeba, mais quand même.
Relativement peu, entre 19 et 20 000 personnes à l'époque. Ça, c'est des estimations qui dataient de 2014, à l'époque où j'étais au Bénichangoul-Goumbouz, donc dans la région de construction du barrage.
En quoi on estime que c'est peu?
Bah parce que vu la taille du reflux et puis du lac formé par le barrage, et à l'échelle des 120 millions d'habitants, plus de 120 millions d'habitants que compte l'Éthiopie, 20 000 personnes déplacées par un ouvrage de cette ampleur, de cette taille, c'est finalement relativement peu. Les personnes qui ont été déplacées sont essentiellement des gens qui sont Goumous, un peuple qui pratique l'agriculture itinérante dans les basses terres de l'ouest de l'Éthiopie et jusqu'au Soudan. Et c'est malheureusement un peuple qui a aussi vu des invasions foncières, des accaparements fonciers de la part de miliciens des régions voisines, et notamment de la Mara. En fait, finalement, depuis 2018, donc au moment où vraiment techniquement, avant les remplissages, les gens allaient être physiquement déplacés, soit de force, soit par la montée des eaux elle-même, eh bien, une guerre qui a repris dans cette région du Bénichangoul, donc qui est un conflit de relativement basse intensité par rapport à ce qu'on voit ailleurs en Éthiopie, mais qui perdure depuis près de 7 ans, avec des massacres et des déplacements de population. Et en particulier, le pic du conflit, il n'est pas lié au barrage, mais il a eu lieu au même moment, disons, au même moment que les premiers remplissages, en 2020-2021. Ce qui fait que la population goumouse, on l'a moins entendu se plaindre du barrage que se plaindre de tous les autres événements liés à ce conflit, notamment foncier, qui avait lieu au même moment.
Mehdi Lafzaé, pour conclure cette première discussion, le barrage de la Renaissance, il est arrivé, vous le disiez, à la fin des années 2000, début des années 2010, comme un grand projet unificateur, disons nationaliste, qui a à l'époque remplacé d'autres grandes causes nationales, dont fait partie une revendication dont on a déjà parlé dans Culture Monde assez récemment, cette revendication éthiopienne d'un accès à la mer. Un accès à la mer dont l'Éthiopie aujourd'hui ne dispose pas. Il lui faudrait pour cela reprendre une partie de l'Érythrée pour avoir accès à ce port dont j'ai oublié le nom, la ville érythréenne d'Assab située en bord de mer. Maintenant que le barrage est inauguré, est-ce que ces causes nationalistes sont en train de ressurgir tous azimuts?
Elles ressurgissent très fort et notamment de la part du commandement de l'armée et de la primature.
La primature
Du Premier ministre.
D'accord, pardon.
Abiy Ahmed lui-même.
Oui, tout simplement.
Cette revendication, notamment sur le port de Assab, est réapparue dans la bouche d'Abiy Ahmed devant le Parlement en octobre 2023, en faisant de l'accès à la mer une question existentielle, en sachant que les dernières questions existentielles d'Abiy Ahmed, enfin pour l'Éthiopie dans la bouche d'Abiy Ahmed, avaient rapport à la guerre au Tigray dont on a dit qu'elle avait fait 600 000 morts. L'accès à la mer Rouge a été déclaré en octobre 2023 question existentielle. Cela a été suivi d'un document de politique extérieure qui émanait du ministère des Affaires étrangères, qui s'appelait la stratégie des deux eaux, l'une eau étant le Nil bleu et l'autre étant l'accès à la mer. Donc on a une volonté de recouvrer un accès à la mer. Le port d'Assab est le plus souvent cité. Il y a eu un accord avec le Somaliland en janvier 2024 pour avoir accès à une autre bande de terre, y compris une base militaire qui aurait été construite là-bas sur la côte plus bas, donc sur le golfe d'Aden plus que sur la mer Rouge. Mais depuis janvier 2024, rien n'a été, en tout cas rien n'a filtré sur une éventuelle mise en pratique de cet accord. Et au cours de l'été, on a vu une multiplication des revendications, cette fois proprement va-t-en-guerre. Le Premier ministre a dit que l'armée de l'air était prête pour une guerre. Le chef d'état-major de l'armée a dit à la marine militaire éthiopienne de se tenir prête à prendre d'un jour à l'autre ses positions sur la mer Rouge. On a vu aussi Abiy Ahmed dans le même entretien que celui qu'on a évoqué tout à l'heure, donc un entretien qui a eu lieu devant le barrage, déclarer que l'Érythrée n'ayant jamais en fait tenu d'élection, la question de l'indépendance ou de la souveraineté érythréenne elle-même devait être posée. Donc on a des vraies menaces sur l'indépendance de l'Érythrée qui peut-être dépassent simplement le port de Assab et qui s'insère dans cette volonté hégémonique et cette vision post-impériale d'Abiy Ahmed.
Oui, on rappelle juste en deux mots que c'est l'Éthiopie sous Meles Zenawi qui a accepté en 93 un référendum pour donner l'indépendance à l'Érythrée, province qui occupait alors la totalité de la façade maritime de l'Éthiopie. Il pensait que tout allait se passer à l'amiable et que l'Érythrée allait faire ce qu'elle disait, c'est-à-dire promettre la libre circulation dans ses ports des marchandises éthiopiennes et et donner cet accès à la mer que finalement l'Éthiopie n'a pas eu. Donc ce conflit est en train de ressurgir, alors que l'Éthiopie a ce discours aujourd'hui de tenir une certaine place, un certain rang dans la région. Un autre voisin aujourd'hui est inquiet de ce que fait des agissements de l'Éthiopie, c'est l'Égypte, et ça concerne toujours ce grand barrage de la Renaissance. On en parle juste après ce chanteur éthiopien, Laeke. Keneka, un morceau tout récent du chanteur éthiopien Laeke. Vous écoutez Culture Monde, le premier épisode de notre série sur les grands travaux. Aujourd'hui en Éthiopie, le barrage dit de la Renaissance à la frontière avec le Soudan et dont l'Égypte craint un effet direct sur le niveau du Nil.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
À nos frères en aval, à nos frères soudanais, à nos frères égyptiens qui s'inquiètent, l'Éthiopie a construit le barrage de la Renaissance pour prospérer et éclairer la région et non pour nuire à ses frères. Je tiens à vous confirmer devant le peuple éthiopien que nous ne vous retiendrons jamais votre juste part d'eau.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lors de l'inauguration du barrage il y a un peu plus d'un mois, ces mots qui se veulent rassurants s'adressent en particulier à l'Égypte en aval, qui parle du barrage comme d'une ligne rouge et d'une menace existentielle. En son temps, le président Sadat disait que toucher les eaux du Nil, c'est comme traverser illégalement les frontières de l'Égypte. Bonjour Ouel Rachid.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorant à l'Institut français de géopolitique. Est-ce que la mise en route du barrage a déjà eu, à votre connaissance, des effets sur le niveau du Nil en aval, en l'occurrence l'Égypte, puisque c'est ce qu'elle craint?
Oui, en tout cas, les autorités égyptiennes, elles accusent donc la gestion de l'Éthiopie d'avoir des impacts sur la gestion de l'eau en Égypte. Ce que disent les autorités égyptiennes, c'est que quelques temps avant l'inauguration du barrage, donc en septembre, il y a eu des relâchés d'eau plus importants, donc j'imagine pour des questions de cérémonie en tout cas. Ça prend plusieurs semaines de l'Éthiopie à l'Égypte pour que l'eau arrive. Et donc,
l'Égypte est à 2500 km du barrage.
Voilà. Et du coup, début octobre, il y a eu des petites inondations en Égypte que le gouvernement attribue à l'Éthiopie. Faut savoir qu'il n'y a plus d'inondations en Égypte depuis la construction du haut barrage d'Assouan. Donc c'est quand même un peu particulier et ça réveille des choses.
Alors que l'Égypte, elle, dit que ça n'a aucun sens puisque le barrage a été conçu non pas pour irriguer mais pour produire de l'énergie. Donc le barrage libère de l'eau, ne la retient pas pour la consommer ensuite. Donc ça ne va pas, dit-elle. Ça peut éventuellement faire monter le niveau mais pas le faire baisser.
Oui, l'Éthiopie, oui. Alors c'est quelque chose qui a toujours été mis en avant et toujours quelque chose qui a été discuté par les autorités égyptiennes. La question, par exemple, de la capacité du barrage, de la capacité du barrage, enfin, de son réservoir, pardon, en fait, c'est 74 milliards de mètres cubes d'eau, du coup. En Égypte, on connaît très bien le chiffre parce que il faut imaginer que c'est 84 milliards de mètres cubes d'eau par an, le débit du Nil dans son ensemble. Donc, pour l'Égypte, ça veut dire beaucoup d'eau qui est stockée à un endroit. Et donc, il s'agit pas de l'hydroélectricité, c'est pas un prélèvement, c'est un prélèvement, c'est pas une consommation d'eau. Donc effectivement, il y a de l'eau qui est relâchée. Mais il y a deux enjeux à cela, c'est que d'une part, les autorités égyptiennes craignent que ça que ce barrage hydroélectrique se transforme aussi en barrage réservoir pour d'autres activités, comme ça peut avoir lieu sur d'autres secteurs, pour le coup. Et la question des relâchers d'eau, à un moment ou à un autre, elle est quand même très problématique, parce que ça implique des questions de gestion de l'eau, surtout l'aval, en fait.
Donc les Égyptiens, 107 millions de personnes en tout, sont tributaires, dépendants du Nil à plus de 97%,
c'est ça ? 98%.
98%. Donc le barrage est réellement, disent-ils, susceptible de provoquer des effets sur la population, de modifier aussi l'architecture égyptienne de la gestion de l'eau, de modifier aussi la qualité de l'eau. Enfin, jusqu'où est-ce qu'on peut envisager des effets de ce barrage sur l'Égypte ?
Oui, en fait, à partir du moment où on construit un barrage, de toute façon, on modifie la qualité de l'eau. Ça ne va pas forcément dire bien ou mal, je ne me prononce pas là-dessus, mais ça la modifie. Et du coup, les Égyptiens, effectivement, ont appuyé un moment là-dessus sur le fait que ça dégradait la qualité de l'eau pour diverses raisons, pour le coup. Bon, il faut savoir qu'en Égypte, quand même, l'eau est quand même très polluée par ailleurs, hein, pour le coup. Donc, c'est quand même un argument aussi pour dire que bon, l'Éthiopie, quand même, gère mal l'eau. Après, le système hydrique en Égypte est organisé à partir du haut Bajassan, en fait. À partir de là, c'était un système très intégré, où il y a une énorme réutilisation de l'eau, par exemple. Donc, c'est quand même limité, en fait. C'est plus une question de quantité d'eau, et après de réallocation. En Égypte, il y a des problèmes des tensions autour de cette réallocation de l'eau, de la distribution de l'eau, pour le coup. Mais c'est l'État qui en est responsable depuis le haut barrage d'Assouan. Les problèmes que peut avoir l'Éthiopie, que l'Égypte peut avoir, c'est si son stock d'eau devient moins important, en particulier en période de sécheresse.
Est-ce que l'Égypte était quand même d'accord pour dire que les traités de 1929 et de 1959 lui donnaient un avantage considérable ? Ces traités négociés à l'époque où la Grande-Bretagne était la puissance colonisatrice a fait en sorte que l'Égypte ait le droit de veto sur tous les projets qui concernent le Nil et qui puissent l'affecter et soit donc la seule décisionnaire sur ce Nil-là. Est-ce que l'Égypte était d'accord pour dire d'accord, on va discuter avec les pays en amont, avec le Soudan, mais surtout l'Éthiopie, pour se répartir les choses un petit peu mieux.
Oui, alors l'Égypte, non, elle ne renonce pas aux deux traités, donc de 1929 et 1959, pour le coup. Il y a juste eu, dans les années 90, l'initiative du bassin du Nil, donc une proto-organisation qui réunissait tous les pays. C'était l'idée d'arriver à une gestion globale du bassin qui soit acceptée par tous les pays, pour le coup. Ça devait finir donc sur un traité cadre qui a chopé sur un point. Donc en 2010, l'Égypte et le Soudan ont gelé leur activité de cette organisation parce que le point qui gênait dans ce traité, c'est que les pays d'amont souhaitaient mettre qu'il pouvait y avoir une gestion de l'eau qui n'affecte pas significativement l'eau pour les deux pays d'aval. L'Égypte et le Soudan refusaient ça. Ils voulaient qu'il n'y ait pas de conséquences défavorables. Donc c'est en fait on passe de un plus ou moins affecté à pas du tout en fait. Donc c'est là-dessus que donc en fait c'est on revient au traité de 59 en fait d'une certaine manière.
Là, l'Égypte a écrit une lettre de protestation juste après l'inauguration du barrage, une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies accusant l'Éthiopie de tenter, je cite, de donner une fausse couverture d'acceptation et de légitimité au barrage et ajoutant que le Caire se réserve le droit de prendre toutes les mesures autorisées par le droit international et la Charte des Nations Unies pour défendre les intérêts existentiels de son peuple. Au-delà des mots, est-ce que l'Égypte a réellement étudié des scénarios d'intervention militaire en Éthiopie comme si l'inauguration de ce barrage avait été interprétée comme une déclaration de guerre?
En Égypte, dans la presse égyptienne, ça a été interprété comme une provocation. D'ailleurs, en 2011, quand le premier ministre de l'époque, donc Meles Zenawi, en fait, fait un grand discours. Alors, à l'époque, c'était pas le barrage de la Renaissance, c'était le barrage du Millennium. Donc, ça avait une autre dimension qui a changé rapidement. Avait aussi invité l'Égypte et le Soudan à financer ce barrage. Donc, il y a une espèce de parallèle. Et du coup, ça a été vu comme une provocation parce que, d'une certaine manière, il y a un passif très long entre l'Égypte et l'Éthiopie, une rivalité qui est ancienne. Donc vous parliez de Sadat, effectivement. Sadat menaçait de bombarder l'Éthiopie s'il construisait des barrages.
Moubarak aussi, qui disait que ce serait l'affaire d'une journée de bombarder le grand barrage de ce qui s'appelait peut-être pas encore le grand barrage de la Renaissance.
Tout à fait. Quand vous avez eu en 2011, donc 2011, processus révolutionnaire un peu compliqué pour l'Égypte, quand Mohamed Morsi est président, il y a une fameuse réunion présidentielle qui a été retransmise à la télévision, publiquement en fait, sans que les participants le sachent, et certains ont suggéré de mener des actions de déstabilisation en Éthiopie. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est par rapport à ce que vous avez dit dans la première partie de l'émission, c'est qu'en fait, malgré les grandes tensions qu'il peut y avoir dans ce pays, ça n'a pas affecté le barrage, en tout cas de manière significative, en fait, malgré un pays en guerre civile.
Donc toutes ces années, l'Égypte s'est également activée, disons diplomatiquement, en faisant pression sur la Banque mondiale pour qu'elle ne finance pas le barrage. Alors je ne sais pas si les pressions ont été vaines puisque le barrage a été autofinancé ou s'il a été autofinancé parce que la Banque mondiale a refusé de contribuer. Les États-Unis aussi ont émis de très grandes réserves. Les États-Unis qui restent un allié indéfectible aujourd'hui de l'Égypte. En attendant, comment l'Égypte se prémunit d'éventuelles pénuries à venir ou de problèmes sur l'eau? En quelques mots, Wael Rachid.
Alors, il y a eu une grande politique de réutilisation des eaux qui a été justifiée par le grand barrage de la Renaissance, pour le coup. Alors, il y a bien sûr des discours en Égypte qui expliquent que c'est plutôt un prétexte aussi, le barrage en essence, pour ne pas discuter des problèmes de réallocation de l'eau en Égypte. En tout cas, les autorités ont justifié des grands programmes d'usines de dessalement, de retraitement des eaux usées pour essayer d'y faire face, pour le coup. Mais en fait, il faut savoir qu'avant même la construction du barrage, l'Égypte considérait déjà qu'elle était aux limites de sa consommation en eau, donc dès les années 2000, en fait. Mmh.
Donc ça fait déjà longtemps, ce sont des choses qui préexistaient à ce barrage, même si les projets ont été accélérés, et notamment le forage aussi de plus de 5000 puits, en plus de cette grande usine de traitement des eaux et d'usine de ressalement aussi. Et puis la question de savoir si le secteur agricole va être moins dépendant en eau, si on va réduire la riziculture par exemple, ce sont des questions qui n'ont pas été résolues en Égypte. On en parlait en juin dans une émission sur le delta du Nil. Merci beaucoup Wael Rachid, doctorant à l'Institut français de géopolitique. Vous restez avec nous. Puisque Mehdi Labzaï, je voulais savoir si du côté éthiopien, on dit qu'on a essayé de discuter avec l'Égypte, on a essayé d'avoir des discussions apaisées. Est-ce que ça a déjà été possible?
Ouais, des discussions ont eu lieu, il y a eu des négociations autour du projet de barrage comme autour de projets de barrage précédents. Maintenant, bon, je pense que du côté éthiopien, en fait, cette volonté d'enrôler les États de l'aval est sincère, hein, que ce soit sous l'ancien régime ou celui-ci. Voilà, l'idée de « on va tous marcher ensemble pour notre développement », ça fait partie de cette stratégie développementale, aussi de cette stratégie de rayonnement un peu hégémonique dans la sous-région. Maintenant, il y avait eu un accord en 2015 sur la gestion du barrage qui attribuait aussi, et je parle sous le contrôle de mon collègue, mais qui attribuait aussi à l'Égypte et au Soudan une part dans les négociations de la gestion de l'eau du barrage. Cependant, l'Éthiopie, par la suite, a mené une politique de fait accompli, où à chaque saison des pluies, on a rempli le barrage, avant même la fin totale de la construction. Ce qui fait que du côté des pays d'aval, ils se sont retrouvés face à un État qui, certes, signait des accords, mais qui, par la suite, n'avait pas véritablement vocation à changer de politique. Donc le barrage est une politique de fait accompli. Maintenant, il est construit. Mmh. Et les idées d'aller le bombarder, Trump avait dit aussi en 2020 que ça prendrait pas beaucoup de temps aux Égyptiens d'aller bombarder le barrage. Bon, maintenant c'est avec autant de milliards de mètres cubes que ce qu'on a dit tout à l'heure retenu, c'est plus une option du tout.
L'Égypte qui accuse aussi l'Éthiopie d'avoir accéléré le projet en 2011 au moment des printemps arabes, quand l'armée égyptienne était bien occupée avec les révolutions populaires qui ont fait tomber Hosni Moubarak à l'époque. Abiy Ahmed, on l'a entendu dans son discours en septembre, a assuré aux pays en aval, donc Égypte et Soudan, qu'il n'avait rien à craindre. Est-ce que ça veut dire qu'il a prévu des garanties particulières? Enfin, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça?
Écoutez, je n'ai pas connaissance de garanties particulières qui ont été prises. Après, je pense qu'il est important de se rappeler tout ce qu'on a dit en première partie de mission, c'est-à-dire que c'est un projet national éthiopien qui a été déterminé en fonction d'enjeux nationaux, d'enjeux internes. Et quand Meles Zenawi va inaugurer le projet, il me semble que c'était en avril 2011, où effectivement on est au cœur de la période révolutionnaire en Égypte, il ne regarde pas vers le Caire du tout. Il regarde la situation interne, ces discours publics sur le développement, sur la lutte contre la pauvreté dans les campagnes, pour l'électrification des campagnes, également dans le cadre d'un projet mobilisateur nationaliste dans le cadre des tensions internes dont on parlait et des tensions contre l'Érythrée, mais c'était pas véritablement dirigé contre le Caire.
Mais c'était aussi un projet, une forme de projet d'indépendance nationale, même si on rappelle que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. En revanche, il s'agissait d'acquérir une indépendance vis-à-vis de ces traités de partage des eaux du Nil décidés par les Britanniques en 1929 et 59. Merci beaucoup Mehdi Labzaï d'avoir été avec nous dans cette émission, chargée de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences sociales du politique. Merci d'avoir été avec nous, ainsi qu'à vous, El Rachid. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, La revue de presse internationale. Catherine Dutu.
De l'ambivalence des sentiments ce matin, dites-vous Catherine Dutu, le Hamas a remis à Israël les 20 derniers otages vivants qu'il détenait dans la bande de Gaza en échange de prisonniers palestiniens.
On peut enfin sourire, a déclaré au journal Haaretz l'un des milliers d'Israéliens venus sur la place des otages à Tel Aviv pour suivre le convoi des camions blancs de la Croix-Rouge internationale pour assister donc à la libération des otages retransmise en direct à la télévision publique Canal 11 ou encore sur Al Jazeera. Israël confronté à un paradoxe de chagrin et de joie, ajoute Haaretz. La joie de retrouver des otages vivants tempérés par la nécessité de partager le deuil des proches d'autres otages. 28 à 7 heures, déclarés morts et plus insupportable encore, la douleur des familles à qui le Hamas annoncera qu'il est impossible de localiser ni récupérer les corps des otages dans un pays toujours traumatisé par les attaques terroristes du 7 octobre. Un état d'esprit quasi indéfinissable, pourtant saisi, note le quotidien Haaretz, par Rachel Goldberg-Pauline, dont le fils Hersh a été assassiné par le Hamas dans les tunnels de Gaza à l'été 2021. S'inspirant de la Torah, lue dans les synagogues le premier jour de Soukhot la semaine dernière, explique Haaretz, Rachel Goldberg-Pauline a expliqué « On nous dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir et nous devons faire les deux maintenant. On nous dit qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire et nous devons faire les deux ». Maintenant. Quant aux Palestiniens, c'est le cœur brisé qu'ils commencent, eux, à fouiller les décombres de Gaza à la recherche de leurs morts, rapporte le Guardian. Hier, Rali Radr est retourné à Jabalia, dans le nord de l'enclave palestinienne, pour fouiller les ruines de la maison de ses parents, réduite aujourd'hui à du béton brisé et du métal tordu. Scène insoutenable, ce Gazaoui de 40 ans n'a retrouvé que des restes de mains et de crânes. Rali Radr a voulu les emmener au cimetière, mais lui aussi a été détruit, raconte le Guardian.
La défense civile de Gaza estime que les corps de 10 000 personnes environ sont coincés sous les décombres.
L'arrêt des combats donne un répit aux survivants, mais la tâche qui les attend est immense dans un territoire qui croule sous 60 millions de tonnes de gravats, indique le Guardian. Si Israël autorise l'entrée d'équipements lourds dans les prochains jours, les corps des Palestiniens ensevelis pourraient être récupérés d'ici 6 mois à 1 an, estime un médecin dans les colonnes du quotidien britannique. Et c'est pour offrir une chance de dire adieu aux disparus que les secouristes de Gaza travaillent sans relâche, poursuit le Guardian, sous un soleil de plomb, tandis que des familles anxieuses attendent à leur côté. Les décombres font partie de la patrie que nous n'abandonnerons jamais, promet dans El País un père de famille debout devant les ruines de sa maison à Ran Younes, alors qu'un garçon de 12 ans cherche, lui, en vain, des cahiers et des vêtements parmi les décombres de sa ville natale dans le sud de Gaza. Plus de 450 camions d'aide humanitaire sont par ailleurs entrés en moyenne chaque jour à Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi. L'ONU considère que c'est encore insuffisant, soulignent El País et la BBC. Les organisations internationales appellent Israël à ouvrir tous les points de passage frontaliers avec la bande de Gaza pour accélérer la livraison des fournitures. Un enfant sur 6 souffre de malnutrition aiguë à Gaza, alerte The Lancet. Plus de 2 millions de Gazaouis vivent dans le dénuement le plus total.
Et si les efforts diplomatiques de Donald Trump pour le Proche-Orient sont salués à l'international, le camp républicain est en revanche critiqué aux États-Unis à cause du shutdown, la paralysie budgétaire.
Qui a mis 700 000 employés fédéraux en congé sans solde, l'explique le Washington Post. 200 000 autres travailleurs jugés essentiels travaillent, eux, sans salaire, alors que l'impasse politique s'éternise, ajoute la BBC. Les démocrates conditionnent leur voix pour un nouveau budget à une prolongation des subventions des programmes d'assurance santé liées à l'Affordable Care Act, connu sous le nom d'Obamacare. Le shutdown pénalise aussi des Trumpistes. Face au président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, sur CNN, une électrice républicaine explique au téléphone la voix tremblante au sein de sa famille. Son mari est militaire. Il souffre de stress post-traumatique suite à ses deux missions en Afghanistan et leurs deux enfants ont besoin de médicaments. D'ici le 15 octobre, sans médicaments nécessaires à leur survie, ils pourraient mourir, explique cette électrice républicaine qui raconte également vivre au jour le jour, de solde en solde. Et en tant que républicaine, dit-elle, je suis très déçue de mon parti, très déçue de vous, Mike Johnson, car vous avez le pouvoir de faire avancer les choses au Congrès. Mike Johnson se dit, lui, désolé. Il accuse encore le camp démocrate d'être à l'origine des problèmes rencontrés aujourd'hui par les citoyens aux États-Unis. Mais pour The Hill, ce cirque médiatique pourrait bien se retourner contre le camp MAGA avant les élections de mi-mandat de l'an prochain, un sentiment relayé au niveau national par Marjorie Taylor Greene, élue de Géorgie, rappelle la chaîne télévisée Atlanta News First, ainsi que CNN, auparavant bon soldat pour Donald Trump. Elle risque d'être une épine dans le pied du camp républicain.
Merci beaucoup Catherine Dutu.